L'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Les mercredis à 20h30, salle Rabelais, la ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
La restime de sirène jusqu'au mur de mai 68.
Que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Le 10 avril 2013, approche génétique dans la recherche sur le cancer, de la mouche à l'homme. À l'ère post-génomique, les séquences des génomes de nombreux organismes invertébrés et vertébrés sont accessibles à tous. Qu'avons-nous alors encore à apprendre de la génétique ? L'approche génétique reste en réalité un outil de choix dans le but d'étudier les mécanismes qui régissent la régulation de l'expression des génomes. Sa particularité est d'offrir une approche in vivo fonctionnelle intégrée. Un défaut de régulation du génome peut conduire à de nombreuses pathologies, dont le cancer. L'utilisation d'organismes modèles, tels que la mouche, le nématode ou bien le poisson zèbre, permet de réaliser des cribles génétiques dans le but d'identifier la fonction de gènes dits suppresseurs de tumeurs. Anne-Marie Martinez, professeure en génétique à la Faculté des sciences de l'Université Montpellier II, nous exposera ses recherches dans ce nouveau numéro de l'Agora des Savoirs.
Tout d'abord, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette manifestation, l'Agora des Savoirs, de me donner la possibilité de présenter cette conférence sur le sujet, comme vient de le dire Stéphane, approche génétique dans la recherche sur le cancer, de la mouche à l'homme. Alors, l'objectif aujourd'hui de cette conférence, c'est, enfin, mon objectif en tous les cas, c'est de vous montrer comment la science qui est dite non appliquée, en d'autres termes fondamentale, peut, contre toute attente, s'avérer parfois essentielle pour la compréhension de pathologies majeures comme le cancer, notamment. Alors comment? Je déclinerai cela en trois parties. Un, on le verra en validant la fonction tumorale de certains gènes lorsqu'ils sont dérégulés. Deux, en identifiant également de nouveaux gènes dans des processus de cancérogénèse en utilisant la drosophile. Et puis enfin, troisième partie, en testant de nouvelles thérapies à l'échelle de l'organisme entier. Il me semble que par le prisme des médias, il arrive que certains travaux de génétique soient déformés et bien extrapolés. Et alors je voudrais aussi ici remettre certaines découvertes de la génétique dans leur contexte originel. Donc j'aurai l'occasion de le faire et je vous le signalerai. Et donc pour cela, eh bien, je vais vous raconter une histoire de succès, mais aussi commenter certaines limitations de nos approches. J'y tiens beaucoup parce que nous avons notamment beaucoup de difficultés à prédire. Nous ne pouvons pas prédire, à modéliser le vivant. Et les conséquences également, nous le verrons, de combinaisons de mutations, que des combinaisons de mutations peuvent avoir, ça également, on a beaucoup de difficultés à le présager. Donc c'est pour ça qu'au lieu d'affirmation, j'ai décidé de commencer par un questionnement qui pourrait pratiquement sonner comme une remise en cause. À l'ère post-génomique, les séquences des génomes de nombreux organismes invertébrés et vertébrés sont accessibles à tous. Alors qu'avons-nous encore à apprendre de la génétique? Et c'est vrai que je pourrais comprendre que l'on se pose cette question. Eh bien pendant une heure, on va faire un parcours à travers l'histoire. Donc le passé, le présent et j'espère l'avenir, et nous pourrons peut-être répondre ensemble à cette question et surtout voir comment la recherche fondamentale s'enrichit de la recherche médicale et inversement. Je suis impliquée dans des travaux de recherche fondamentale, mais tous les jours nous utilisons des résultats obtenus par nos collègues médecins et vous allez voir aussi comment cette barrière n'est pas du tout étanche, mais comment on arrive à travailler ensemble. Donc voici deux organismes que vous avez reconnus spontanément, je pense. Sur votre gauche, vous voyez un organisme que dans les laboratoires, nous appelons Drosophila melanogaster, mais qui est connu aussi sous le nom de mouche à vinaigre. Et puis à droite, je ne vous présente pas ce dessin. Et donc, a priori, il est difficile de croire que l'on puisse apprendre quoi que ce soit sur l'homme et ses pathologies en travaillant sur cet organisme. En effet, nous n'avons pas Dieu à facettes, peut-être hélas, je ne sais pas, nous n'avons pas d'ailes, nous ne pondons pas d'œufs, nous ne passons pas par des stades larvaires, mais peut-être aussi faut-il ne pas se fier aux apparences, et la génétique, s'il y a bien une discipline qui est capable de ne pas se fier aux apparences et de retrouver peut-être une vérité cachée, plus abstraite, c'est bien la génétique qui a développé des outils très efficaces depuis des décennies pour éviter ces pièges et pour disséquer l'action des gènes et leurs fonctions in vivo à l'échelle de l'organisme. Ce que nous allons voir est donc en réalité, depuis au moins une décennie, la recherche sur la drosophile comme organisme modèle dans la recherche contre le cancer est très fructueuse, comme l'atteste le nombre de conférences qui sont organisées sur ce sujet, le nombre d'équipes qui travaillent dans ce domaine, de doctorats qui sont soutenus, d'articles qui sont publiés dans les revues les plus prestigieuses. Alors comment cela se fait-il ? Comment cela se fait-il qu'on puisse apprendre quelque chose chez la drosophile qui puisse être utile à la compréhension du système humain ? Eh bien, pour peut-être avoir une idée claire de ce qu'il se passe, je vais prendre le chemin à l'envers et je vais venir directement à la phase des séquençages des génomes et voir comment le séquençage des génomes a permis, pour ceux qui en avaient encore besoin, de voir que nous avions pas mal de choses à partager avec cet insecte. Alors, le séquençage du génome humain d'abord. Il va permettre de lire l'ensemble du génome. Alors, qu'appelle-t-on le génome ? Eh bien, c'est la séquence de tous les gènes, c'est tout ce patrimoine génétique que nous avons dans le noyau de nos cellules, et qui, bien sûr, est important, je vais y revenir. Alors, cette séquence du génome humain, c'est une séquence qui est écrite à 4 lettres, ATCG, et donc une séquence, c'est ATCG, GG, CC, AT, TT, CC. Voilà, ce qu'on obtient quand on séquence un génome. Alors, quel intérêt d'avoir ces génomes ? Très tôt, en recherche contre le cancer, on a compris que plutôt que de travailler gène par gène, comme on le faisait jusque-là, ce qui était quand même très difficile, ça allait être pas mal de pouvoir travailler sur l'ensemble des gènes en même temps. Donc avoir le séquençage du génome humain, c'était l'idée d'avoir d'un coup une connaissance de tous les gènes qui constituaient notre patrimoine génétique. Ça intéressait évidemment tous les chercheurs, mais ce qui les intéressait, l'idée sous-jacente, c'était de craquer le code, de comprendre le langage du génome. Et d'ailleurs, ça fait l'objet, vous le savez, en 2001, lorsque le génome est séquencé, ça fait l'objet de grandes publications dans les médias. Bill Clinton se déplace au NIH aux États-Unis. C'est vraiment une grande découverte. En tous les cas, on a un livre, ce qui a été au départ qualifié de livre de la vie. Seulement, un livre, c'est bien d'avoir un livre entre les mains, mais encore faut-il comprendre ce qu'il y a dedans. Et on n'en est pas là à ce que vont noter très rapidement des éditeurs de la revue Science, qui disent, bon, ce qu'on aurait pu prendre pour un livre de la vie, en fait, c'est plutôt une bibliothèque. Et maintenant, il va nous falloir beaucoup d'exploration et de créativité, et peut-être avoir beaucoup d'autres livres pour finalement peut-être comprendre notre place dans tout ce système. Donc avoir d'autres livres, c'est ce qui a été recherché, et en voilà quelques-uns. Alors d'abord les livres d'autres organismes dits modèles, c'est-à-dire des organismes qui sont classiquement utilisés en génétique. Donc ici vous reconnaissez peut-être pas, mais c'est la levure de boulanger, Saccharomyces cerevisiae, le nématode, Caenorhabditis elegans, et puis la fameuse drosophile qui est là, à côté de l'humain. Alors a priori, avant que ce séquençage soit réalisé, on pensait que l'humain avait 100 000 gènes. Il fallait qu'il en ait beaucoup, parce que ça expliquait la complexité supérieure de cet organisme par rapport aux autres, qui était évidente, c'est ce qu'on voit. On n'est plus compliqué. En réalité, lorsque les génomes ont été comparés, eh bien, grande surprise, alors l'homme a peut-être, déjà il n'en a pas 100 000, là j'ai marqué 25 000, mais aujourd'hui c'est plutôt 22 000. Et puis la drosophile, elle, de l'autre côté, alors la levure se débrouille pas mal pour un unicellulaire, 6 000 gènes, 19 000 gènes sur le nématode, bon. Finalement, la drosophile n'a pas grand-chose à envier à l'humain, qui est aujourd'hui à 15 000 gènes. Donc, il n'y a pas de lien direct entre le nombre de gènes qui constituent un génome et la complexité de l'organisme. De toute évidence, il faut chercher une explication ailleurs. Et pour l'anecdote, un grain de riz a 37 000 gènes. Et ce n'est pas tout, nous avons des milliers de gènes en commun avec la drosophile. Mais non seulement ils sont en commun, mais les fonctions sont conservées, et je vais y revenir. Et certains sont donc allés jusqu'à dire que la drosophile, ça pourrait être un peu la pierre de Rosette qui va nous permettre de comprendre le langage des génomes, qu'on n'a pas pu comprendre avec la lecture des séquences. Donc peut-être que la différence de l'homme, je dirais, ou la différence apparente vient d'autre chose, peut-être la complexité de la régulation de ce génome, je vais y venir. Donc l'idée sous-jacente de l'utilisation d'un drosophile, c'est pourquoi ne pas utiliser un organisme simple, mais relativement complexe, pour aller comprendre déjà ce qui se passe, et puis essayer de voir si c'est transposable ou pas à d'autres organismes. Mais essayons d'abord de comprendre, avant d'essayer de comprendre ce qui fait la différence entre un homme et une drosophile, on pourrait déjà essayer, et ça a été fait bien avant les séquençages des génomes par la recherche fondamentale, de comprendre ce qui fait la différence et la complexité et la différence de nos cellules au sein d'un même organisme. Parce que, il faut savoir que, avant le séquençage des organismes, la question fondamentale des biologistes était l'implication des gènes dans le développement des organismes dans un contexte normal déjà, avant de s'intéresser à un contexte pathologique. Et ici, ce qu'on voit, c'est un développement embryonnaire. Donc, on part, tous d'une première cellule, c'est la cellule qui provient de l'ovocyte fécondé par les spermatozoïdes, et puis on passe par plusieurs phases de développement, donc la phase embryonnaire, et puis à la fin, il y a des phases de division cellulaire qui se succèdent, et on finit par être constitué de cellules qui ont des aspects et des fonctions tout à fait différentes. Donc nous avons tous des cellules de peau, des neurones, des cellules cardiaques, des cellules musculaires. Donc la question est, comment à partir d'une première cellule obtient-on autant de cellules de type différent ? Et Thomas Morgan, le père fondateur de la génétique de la drosophile, se posait déjà cette question en se disant « Mais si les caractères d'un individu sont vraiment déterminés par les gènes, donc, il remettait quand même en cause cette notion-là, mais alors pourquoi toutes les cellules d'un organisme ne sont-elles pas identiques ?» Et de façon plus saisissante, je pourrais vous dire qu'une chenille et son papillon ont exactement les mêmes gènes. Comment le sait-on ? Eh bien, on le sait grâce aux expériences de clonage dont vous avez toujours entendu parler, mais peut-être pas dans le même contexte. Ces expériences de clonage, elles n'ont pas d'abord été réalisées chez des brebis ou même chez d'autres organismes mammifères. La première personne qui a réalisé ces expériences, c'est le prix Nobel de cette année, John Gurdon, qui a obtenu le prix en 2012, et qui se posait cette question. Est-ce que toutes nos cellules de l'organisme ont le même ADN ? C'était pas l'hypothèse la plus évidente, parce que l'hypothèse la plus évidente était de se dire « nos cellules sont différentes », parce qu'elles ont des ADN différents. Alors après, savoir comment, ça c'était une autre question. Et qu'a-t-il fait ? Il a pris des noyaux de cellules différenciées, spécifiées. Il a récupéré ce noyau, dit de cellules somatiques, et l'a injecté dans un ovocyte, donc une gamète, énucléée, auquel on avait relevé le noyau. Et l'idée était que si les cellules différenciées avaient le même potentiel que la première cellule, alors, il devrait pouvoir redonner un organisme. Ce qui a été le cas, et ces expériences, il les a fait dans les années 50, 1950. Ce n'est que quelques décennies après que vous avez entendu parler de Dolly, la brebis, et tout d'un coup, on s'est rendu compte de la possibilité de réaliser du clonage. Mais la conclusion de l'expérience ici, c'était que toutes les cellules ont le même ADN, mais donc probablement ne l'utilisent pas de la même façon. Et donc, à partir d'une même matrice, cette fameuse séquence, on peut faire plusieurs variations. Alors là, ça amène à une autre question, mais alors, quels gènes sont utilisés pour faire quoi, quand, comment ? Et là, c'est là qu'intervient la drosophile. La drosophile, c'est un organisme qui est utilisé en génétique depuis une centaine d'années. C'est un organisme simple, qui a une reproduction rapide, qui génère plusieurs descendants en une génération, donc on va vraiment pouvoir travailler dans de bonnes conditions, et puis je passe sur le fait qu'il y a des outils techniques très sophistiqués. Et la drosophile va contribuer à de très grandes découvertes. Et ici, je me suis limitée au prix Nobel de 1995, où vous voyez trois éminents chercheurs dans le domaine, qui sont Christian Nusslen-Volart, Eric Vichos et Ed Lewis. Alors ces chercheurs partent dans une véritable épopée. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ceux-là ont été complètement décriés. On leur a dit, mais ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'ils recherchaient, ces généticiens ? Donc encore une fois, je le rappelle, ils ne connaissaient pas le génome. Hein, ils n'avaient pas ça en main. En fait, la génétique fait une démarche inverse. C'est-à-dire qu'on va rechercher des organismes mutés qui ont des défauts, à un certain stade, et on va en inférer la fonction du gène qui est associé, sans même savoir où se trouve le gène. C'est pas ça la question. Donc les deux premiers ici veulent connaître l'identité des gènes qui sont impliqués dans l'embryogenèse précoce, pour former un embryon. Et donc ils vont prendre des drosophiles, les muter, et récupérer les mutants qui ont des défauts d'embryogenèse précoce. Alors là, j'ai un exemple. Cet embryon ici, eh bien, il n'est pas tout à fait normal par rapport à l'embryon qui se trouve à gauche. C'est normal, il est muté sur une voie particulière qui se trouve aujourd'hui être impliquée énormément, énormément impliquée dans les cancers. De très nombreux cancers ont ce gène qui présente des dérégulations. On ne pouvait pas soupçonner au départ que ce serait le cas. C'est de la recherche fondamentale. Donc, ils récupèrent leur mutant du développement précoce. Le co-prix Nobel Ed Lewis, lui, va récupérer des mutants qui provoquent des défauts d'identité cellulaire qui peut se voir facilement chez l'adulte. Donc c'est ça qui est bien chez la drosophile, vous voyez, on voit facilement les choses. Et là, on le voit d'autant plus facilement qu'il arrive à générer des mutants qui s'appellent des mutants homéotiques, où les cellules sont complètement trompées d'identité. Tout à l'heure, vous l'avez vu, vous le savez, les mouches ont deux ailes. Ici, vous avez une mouche à quatre ailes. C'est ce qu'on appelle une mutation homéotique. Un segment de la mouche a pris l'identité d'un autre segment. Donc il y a complètement erreur dans l'identité cellulaire. Alors vous pourriez me dire, oui, bon, mais là, c'est vraiment, ça c'est de la mouche. Je veux dire, ce mutant, il est impossible qu'on ait le même chez nous. Je vous rappelle qu'on n'a pas d'ailes, donc on ne peut pas avoir le même gène. Alors évidemment, on n'a pas de gènes qui font des ailes, mais on a l'équivalent. Et ça, ça a été une grande découverte aussi en recherche fondamentale. Les gènes qui s'expriment là, ici, dans cette région chez la mouche, nous avons les équivalents chez l'homme. Alors évidemment, ils ne font pas apparaître quatre ailes, mais nous avons ça va provoquer des mutations de type homéotique aussi. Et ça peut se voir dans les parties segmentées de l'humain. Alors nous, ça ne se voit pas à l'extérieur, il faut le regarder à l'intérieur, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Et là, c'est un cas saisissant d'une mutation homéotique chez l'homme. Normalement, nos vertèbres ont une identité, cervicale, thoracique, etc. Là, c'est le cas d'une transformation de la septième vertèbre cervicale, donc il ne devrait pas avoir de côte, qui a maintenant des côtes. Donc, on a conservé la fonction des gènes de drosophile chez l'homme. Alors l'ensemble de ces gènes est étudié individuellement, puis on essaie de refaire une histoire avec toutes ces fonctions. Est-ce que les gènes qui sont impliqués dans l'embryon des précoces ont tous un rapport les uns avec les autres? Et alors là, ça devient vite compliqué, parce que oui, ils ont des rapports. Ils ont des relations, alors parfois ils sont antagonistes, parfois ils sont synergiques, en tout cas, ils travaillent ensemble. Et ça, aujourd'hui, ça nous intéresse aussi parce que c'est ce qu'on appelle les systèmes complexes. Oui, ça se voit que c'est complexe, certains s'activent, certains se répriment, tôt ou tard, certains répriment plusieurs autres gènes, à des moments différents. Donc ce sont toutes des cascades qui auraient pu être répertoriées. Chaque flèche représente 3-4 ans de travail pour plusieurs équipes dans le monde. Mais ce que je voudrais que vous reteniez ici, c'est que forcément, quand on touche un système, il y a de fortes chances qu'on affecte tout le système. Et ça, on ne peut pas le prédire. On ne sait pas, quand on touche un point névralgique, on ne sait pas ce qui va se passer. Et pour faire une analogie, eh bien, prenez le plan du métro parisien. Si vous voulez bloquer la voie, un train, un métro au niveau de la station Châtelet, ben, il y a beaucoup de chances pour que vous bloquiez toute la circulation à Paris, dans le métro. Et ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut faire en général quand on veut avoir une circulation régulière. Donc pour récapituler, toutes nos cellules ont le même génome, mais elles ne l'utilisent pas de la même façon. On connaît les gènes impliqués dans certaines fonctions. Eh bien ces gènes, du coup, ils sont des fois actifs, des fois pas actifs. Et aujourd'hui, on peut très facilement le voir avec ce genre de carte. Ici, vous avez une liste de gènes qui sont impliqués dans le système immunitaire, peu importe, c'est un exemple. Tout ce qui est rouge, c'est le gène est très exprimé. Tout ce qui est bleu, c'est le gène n'est pas exprimé. Et en haut, ce sont différents types cellulaires, des lymphocytes de type B, des lymphocytes de type T. Et vous voyez que le même gène peut être très exprimé ou pas exprimé selon le type de cellule. Et donc, c'est le développement normal. Donc, c'est comme une chorégraphie reproductible, synchronisée, sous dépendance d'un programme génétique en amont, qui contrôle, qui orchestre tout ça. Que les gènes étaient régulés, on le savait déjà depuis le prix Nobel français de Jacob et Monod, mais c'était chez les bactéries. Maintenant, on le voit, c'est vrai chez nous. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec le cancer? Je vous raconte plein de choses depuis tout à l'heure et on ne voit pas trop où est la connexion. Eh bien, pour voir le rapport avec le cancer, peut-être qu'il faut revenir à la définition du cancer, parce que c'est un terme générique qui se réfère en réalité à des centaines de formes de maladies. Et ça définit une collection de désordres qui ont quand même un dénominateur commun, et c'est là-dessus qu'on se raccroche aujourd'hui, c'est qu'ils présentent une croissance incontrôlée des cellules. Donc pour aboutir à une croissance incontrôlée des cellules, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Et là, la liste n'est pas exhaustive, mais je vais en donner quelques-uns. Ce qui est assez caractéristique des tumeurs, c'est des défauts de prolifération. Donc on parle souvent de prolifération anarchique. La prolifération cellulaire, c'est un processus normal qui permet à nos cellules de se diviser. Donc une cellule mère donne deux cellules filles, etc., etc. Dans les cancers, on voit souvent des proliférations anarchiques. Mort cellulaire programmée. Bien, Stéphane est un spécialiste à Montpellier de ce phénomène. Au cours du développement normal, donc ça s'est aussi appelé apoptose, au cours du développement normal, il y a certaines cellules dont le destin est de mourir. C'est programmé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des doigts qui sont bien séparés. On n'est pas des canards, on n'a pas de cellules entre nos doigts parce qu'elles ont été programmées pour disparaître au cours du développement, pour mourir. Et bien, dans les cancers, on sait qu'il y a parfois des défauts tels que des cellules qui auraient dû mourir survivent. Il existe aussi des défauts de polarité. La polarité aussi, elle est visible. Nos cellules ne sont pas homogènes, elles sont orientées. Et c'est très important pour maintenir l'architecture des tissus, des organes qui nous constituent. Donc nos cellules doivent savoir dans quel sens elles sont, elles doivent savoir comment s'organiser. Et là encore, des défauts de polarité sont visibles dans les tumeurs, sont très fréquents. La polarité... La communication cellulaire, nos cellules se parlent inévitablement. On ne peut pas imaginer qu'un système se construise, aussi complexe se construise, sans que les cellules communiquent. Et des systèmes de communication qu'on appelle des signalisations altérées sont aussi énormément fréquentes dans les tumeurs automatiques. Et puis quand on arrive à des tumeurs plus complexes, invasives, qui présentent des métastases, eh bien là on sait que c'est des capacités invasives, donc les cellules acquièrent des propriétés à bouger, alors que normalement elles auraient dû être confinées dans un tissu. Enfin, l'immortalité. Nos cellules, normalement, ne survivent pas après un certain nombre de divisions. Il existe ce qu'on appelle des mécanismes de checkpoint en anglais, qui sont des douanes qui font qu'à partir d'un certain nombre de divisions, nos cellules auront pour programme de disparaître par sénescence pour être remplacées par des cellules plus jeunes. Mais ces douanes et ces systèmes de régulation naturelle peuvent échapper complètement, peuvent être complètement dérégulés dans les cancers. Et enfin, il existe des défauts de maintien de l'intégrité des génomes. Alors là encore, nos génomes doivent assurer qu'ils sont reproduits correctement et qu'il n'y ait pas de défaut avant que les cellules se divisent. Donc on doit s'assurer que tout va bien, et dans les tumeurs, ce n'est pas le cas. Je vous disais, la liste n'est pas exhaustive parce qu'on en rajoute tous les jours. Alors cause ou conséquence, c'est pas tellement le sujet. Ici, c'est difficile, certains disent que c'est le défaut de polarité qui est primaire, d'autres qui disent que c'est la prolifération. Enfin, chaque jour, il sort des papiers, je ne pourrais même pas vous faire la liste de ce qui est connu, parce que ça fait toujours lieu de polémiques, il y a toujours des polémiques là-dessus. Mais finalement, l'ensemble de ces constatations a amené les biologistes du développement à se dire que le cancer, en fait, c'est une maladie du développement normal. C'est-à-dire les cellules cancéreuses, ce qu'elles ont, c'est une dérégulation des gènes qui ne vont plus s'exprimer au bon endroit, au bon moment, et qui vont vraiment quitter complètement tous les contrôles. Et donc, en fait, en quelque sorte, un cancer, ça résulterait d'un développement pathologique. Et en partant de cette définition, on n'est pas étonné du coup que tous les tissus soient affectés. Là encore, la liste n'est pas exhaustive. Si vous allez sur certains sites, on voit qu'il y a 200 types de cancers chez l'homme qui affectent 60 organes différents. Donc inévitablement, tous les types de cellules peuvent être touchés puisque c'est un programme de développement qui est affecté. Alors maintenant, je vais revenir sur les différentes étapes de conceptualisation de l'initiation, du processus d'initiation du cancer. Parce que depuis toujours, les chercheurs ont voulu conceptualiser, on travaille toujours dans un cadre théorique pour comprendre comment une tumeur peut être initiée. Alors le premier, il y a 99 ans, qui a proposé un modèle, c'est un éminent scientifique qui s'appelle Théodore Bovary, qui va être le premier à poser l'hypothèse que le cancer, ça pourrait être un problème génétique, en disant qu'il propose que des aberrations chromosomiques soient la cause du cancer. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, une cellule, ici c'est une cellule normale, donc normalement une cellule, avant de se diviser, réplique son patrimoine génétique et puis doit le répartir de façon équitable dans les deux cellules filles. Et lui, à cette époque-là, il travaille sur des organismes qui sont l'oursin et la salamandre, et il s'amuse à manipuler expérimentalement ces organismes, et il s'aperçoit qu'il essaie de travailler sur les mécanismes de la division cellulaire, et il s'aperçoit que là, c'est l'oursin et là, c'est la salamandre, il a des défauts qui ressemblent à ceux des cellules cancéreuses. Alors là, vous avez une cellule cancéreuse, vous voyez que la division du patrimoine génétique n'est pas équitable, cette cellule a beaucoup plus d'ADN, donc il y a eu un défaut de séparation du matériel génétique. Et puis ici, vous voyez une cellule cancéreuse aussi, vous voyez qu'il y a des bouts qui sont perdus au moment de la séparation du patrimoine génétique qui aurait dû être équitable. Il y a des bouts de chromosomes qui, maintenant, sont perdus. Donc, cause génétique du cancer. Ce n'est que des décennies plus tard qu'une nouvelle théorie apparaît, celle de Knudson, qui travaille sur un cancer qui s'appelle le cancer du rétinoblastome. Et c'est un cancer qui existe sous deux formes, une forme héréditaire, précoce, qu'on voit chez l'enfant, et une forme sporadique, plus tardive, qu'on voit chez l'adulte. Et ce qu'il observe, c'est que chez l'enfant, la tumeur peut affecter souvent les deux yeux.
Et il en vient à l'hypothèse qu'il y aurait une prédisposition héréditaire au cancer et que pour développer le cancer, en fait, il faut deux atteintes sur le même gène. Pourquoi deux atteintes? Parce qu'en fait, nous avons tous, nous sommes diploïdes, donc nous avons chacun une copie qui vient de notre mère et de notre père. Donc l'idée, c'est que la forme héréditaire chez l'enfant, eh bien l'enfant a déjà hérité de ses parents une forme mutée, la première atteinte, et au cours de son développement, de sa vie, la deuxième atteinte peut apparaître, et donc on va avoir une formation qui est une formation de tumeur plus précoce. Alors que chez l'adulte, la forme sporadique demande que cette personne ait une première mutation qui apparaît sur ce gène, puis une deuxième mutation sur le même gène, ce qui est beaucoup plus rare, et donc qui arrive plus tard dans le développement. Et alors, à partir de là, on va travailler gène par gène, et c'est long. Et on fait ce qu'on appelle de la marche sur le chromosome. Donc, on essaye de retrouver les gènes associés aux tumeurs, et on finit par le trouver. Et le premier gène associé à cette tumeur va être appelé le gène suppresseur de tumeur, le gène du rétinoblastome. Donc, ce gène, il est identifié en 86, on sait maintenant où il est. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un peu plus tôt avaient été découverts les proto-oncogènes. Alors, comme leur nom l'indique, plutôt comme leur nom ne l'indique pas, ces proto-oncogènes ne sont pas là pour faire des tumeurs, c'est pas leur fonction. Et les suppresseurs de tumeurs ne sont pas là pour empêcher les tumeurs d'apparaître. Ces gènes ont des fonctions physiologiques. Un oncogène, lorsqu'il est activé, donne un avantage de croissance aux cellules. Un suppresseur de tumeurs, lorsqu'il est inactivé, augmente la croissance des cellules. Et donc, normalement, c'est un système très régulé. Les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs ont des fonctions antagonistes régulées, de telle sorte que l'homéostasie de l'organisme est maintenue. Par contre, une suractivation d'un oncogène ou bien une perte d'activité d'un gène suppresseur de tumeur peut être la cause de l'initiation d'émergence d'un cancer. Alors, comment on active, comment on réprime, ça c'est une autre histoire, ça serait, on rentrerait dans les détails. En fait, ça c'est l'histoire dans les livres, mais le premier gène suppresseur de tumeur n'a pas été découvert chez l'homme. Il a été découvert chez la drosophile en 1967 par Elisabeth Gateff. Chez la drosophile, elle a recherché des mutants qui ont des surcroissances qui ressemblent à des tumeurs. Elle les a trouvées. Et ces tumeurs ici, donc en fait, ça c'est un tissu normal de drosophile, ça c'est la tumeur de drosophile, donc trouvée en 67. Et elle, ce qu'elle découvre, c'est que ça affecte un gène de polarité. Alors on avait deux écoles. Chez l'homme, on avait un gène suppresseur de tumeur, PRB, qui contrôlait la prolifération. Et chez la drosophile, on avait un gène qui contrôlait la polarité. Donc on voyait pas le rapport au départ, et les chercheurs humains et les chercheurs drosophiles, pour dire simple, ont chacun travaillé dans leur domaine, sur leur gène, et aujourd'hui ça converge complètement ces études. Donc des travaux qui n'avaient pas de rapport au départ vont aujourd'hui avoir un lien direct. Alors on va très vite formuler une autre hypothèse. C'est Nowell en 76 qui va formuler le modèle de l'évolution clonale ou multiple hit de la génération d'un cancer. Pourquoi ? Son hypothèse, c'est qu'il ne faut pas une mutation, c'est pas suffisant pour faire un cancer. Il faut que plusieurs mutations apparaissent successivement les unes après les autres. Alors, les pathologistes à la fin du 19e siècle, milieu 19e siècle, fin 19e, avec des microscopes, avaient déjà observé que les tumeurs étaient composées de cellules d'aspect tout à fait différent. Et puis, l'autre chose que savait Nowell, c'est que lorsqu'on prend des cellules à différents endroits d'une tumeur, elles n'ont pas toutes la même aptitude à former elles-mêmes une tumeur. Et donc l'idée de Nowell, c'est que les cellules, pour acquérir ce potentiel tumoral, va devoir accumuler plusieurs mutations. Donc vous avez la cellule mère ici qui va initier, qui va avoir une première mutation, et puis elle va donner des cellules filles. Et donc les cellules filles, c'est ce qu'on appelle le clone. Donc toutes les descendantes d'une même cellule, c'est le clone. Puis donc une deuxième mutation va apparaître, puis une troisième mutation, puis une quatrième mutation, puis une cinquième mutation qui, in fine, va conduire à l'instabilité génomique. Et cette théorie colle avec le fait qu'il faut des mois et des années pour générer finalement un cancer. Donc cette vision, c'est une vision linéaire et séquentielle du processus de cancérisation. Cette hypothèse va être vérifiée par Vogelstein, notamment, sur le cancer colorectal. Et donc on part ici d'un épithélium de cellules normales qui vont acquérir une première mutation, alors là ça va être une perte d'activité d'un suppresseur de tumeur, et qui vont donc former un petit adénome, c'est-à-dire des cellules qui commencent à prendre l'avantage et qui commencent à proliférer. Et puis, il démontre que les cellules acquièrent ensuite la suractivation, l'activation d'un proto-oncogène. Et donc ça, c'est une deuxième mutation qui va donner encore plus l'avantage à ces cellules, qui vont avoir une deuxième phase de croissance. et qui vont donc augmenter, qui va voir l'adénome augmenter en taille. Et puis, successivement, peuvent apparaître d'autres mutations qui collaborent pour finalement donner un carcinome qui a des propriétés de tumeurs malignes. Donc, ces cellules acquièrent, et c'est vraiment ça, un avantage parce qu'elles rentrent en compétition. C'est vraiment de la compétition cellulaire. Elles se battent et elles gagnent la bataille. Elles gagnent la bataille sur les cellules normales. Je vous ai raconté toutes les théories. Et maintenant, on revient à 2001. Tout à l'heure, je vous ai parlé du séquençage du génome humain. Et ça, c'était le séquençage normal. Je vous avais dit que le rêve, c'était d'avoir tous les gènes d'un coup. Et qu'on ne comprenait pas très bien. Mais les cancérologues ont tout de suite compris que ça, on pouvait en faire quelque chose. Mais il y a encore 10 ans, l'idée qu'on pourrait détecter toutes les mutations qui existent dans une tumeur chez une personne donnée à la lettre près serait parue complètement illusoire. Aujourd'hui, ça se fait. Alors qu'est-ce qui se fait? Eh bien, on arrive à séquencer les génomes de plusieurs tumeurs. C'est possible aussi parce que les coûts de séquençage ont diminué d'un facteur 10 000, ce qui est énorme et donc c'est accessible au laboratoire. Alors, ce qui est fait, eh bien, c'est il y a un consortium international, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir sur Internet, consortium international du génome, qui va essayer de craquer, parce que c'est toujours l'obsession, le code du cancer, en séquençant des cancers du poumon, du sein, etc., l'ensemble des cancers, et voir ce qu'on trouve. La difficulté, c'est qu'on obtient des quantités incroyables, des masses de données qui sont répertoriées dans des ordinateurs. C'est vraiment des quantités importantes de données, mais il faut aussi être capable de les interpréter, de leur donner un sens en termes de régulation biologique. Alors ça, c'est ce qui est difficile, mais il y a déjà des personnes qui commencent à avoir des résultats, et c'est le cas notamment de Laura Wood, qui a publié en 2007 des résultats. Donc la première idée qu'on peut se faire, après ces séquençages de génome de cellules cancéreuses, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, ce qu'elle voit, elle l'a montré sous forme de ce qu'elle appelait un paysage génomique. Alors dans ce paysage, eh bien, vous voyez des montagnes, vous voyez des collines. La hauteur, alors ça, c'est une moyenne sur 100 personnes qui ont toutes un cancer colorectal. L'intensité, la hauteur du pic reflète la fréquence retrouvée de la mutation dans les cancers de ce type. Donc les montagnes, ce sont des mutations qu'on retrouve souvent dans le cancer colorectal. Et les collines, ce sont des mutations qu'on retrouve en moyenne dans moins de 5% des cancers colorectaux. Alors que voit-on ? Bien, il y a peu de montagnes et il y a beaucoup de collines, mais surtout on voit qu'il y a des centaines de mutations. Et maintenant, de façon plus intéressante, si au sein de cette population, parce que ça c'est des résultats moyennés, on prend 2 personnes atteintes de cancer colorectal. On va les appeler le patient 1 et le patient 2, en blanc et en jaune. On va séquencer donc le génome de leur tumeur, et on va la comparer à la population générale. Donc c'est ce qui est représenté en bas. Donc les points blancs, c'est les mutations qu'on retrouve, c'est les gènes mutés chez le patient 1. Les points jaunes, ce sont les mutations qu'on retrouve chez le patient 2. Et qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, les points bleus, vous savez ce que c'est ? Ce sont les endroits où on recoupe, où les mutations sont les mêmes. C'est-à-dire qu'individuellement, on a des centaines de mutations, mais pour un même type de cancer, ce n'est pas forcément les mêmes mutations qu'il y a. Donc ça, c'est vraiment l'observation très récente grâce au séquençage des génomes. Alors, Vogelstein, toujours lui, vient juste de publier dans Science en mars une sorte de synthèse sur le démarrage de ses travaux sur différents cancers. Et il dit, bon, nous avons 140 gènes qui ont été identifiés, qui, lorsqu'ils sont mutés, peuvent provoquer l'apparition d'une tumeur. Et les gènes capables de provoquer l'apparition d'une tumeur, on appelle ça des drivers. Mais cette définition de driver, c'est une définition tout à fait théorique et physiologique. Un driver, pour lui, c'est une mutation qui va donner un avantage de croissance aux cellules. Par opposition à des mutations qui sont dites passagères, qui sont là, mais qui n'ont pas d'impact, ni sur l'initiation, ni sur la progression, ni sur le maintien d'une tumeur. Et donc le bilan actuellement, mais bon, bien sûr, ça risque de progresser, c'est qu'une tumeur contient de 2 à 8 mutations de type driver, donc probablement qui collaborent, et puis d'autres mutations passagers. Mais dans ces drivers, il y a plusieurs dénominateurs communs. On voit que, pour l'instant, ce qu'on trouve, c'est que ces drivers affectent des voies de signalisation. Vous savez, ces fameuses voies de communication cellulaire. Et alors, c'est surtout 3 processus biologiques qui ont l'air d'être affectés systématiquement. C'est le devenir cellulaire, donc toutes ces histoires d'identité cellulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, on voulait savoir pourquoi une cellule devient plutôt neurone que... Eh bien, on voit que ce sont ces processus-là qui sont beaucoup affectés dans les cancers. La survie cellulaire, on en parlait aussi tout à l'heure, la fameuse apoptose, eh bien, c'est des voies qui sont énormément affectées, et puis le maintien de l'intégrité du génome. Alors, ces études continuent, et voilà une image, pour l'instant, du nombre de mutations détectées dans différents cancers, donc plus seulement dans le cancer colorectal, mais dans des cancers qui affectent différents organes, et c'est très variable, hein, donc ça va de 20 à 1000. Mais vous avez donc des cancers gastriques, 53 mutations, cancer de l'œsophage, 79 mutations. Donc c'est un véritable travail de séquençage et de catalogue de ces mutations qui est en cours. Et le dernier résultat pour vous donner finalement la dernière idée qu'on se fait du cancer, eh bien c'est que c'est une rénovation de la théorie de Noël sur l'évolution clonale du cancer. En fait, ce que l'on pense aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un clone dans une tumeur, mais plusieurs clones, plusieurs sous-clones. Et cette hétérogénéité au sein d'une même tumeur, elle a été visualisée par un cancérologue l'année dernière, Swanton, à Londres, en Angleterre, qui a pris des cancers du rein et qui a séquencé plusieurs endroits d'une même tumeur. Et là, il s'est rendu compte qu'il y avait 128 mutations dans cette tumeur cancer du rein, mais qu'il n'y avait qu'un tiers qui était partagé par les différents prélèvements pris dans la même tumeur. D'où cette nouvelle théorie de l'émergence d'un cancer. Il y aurait toujours besoin d'une première mutation, deuxième mutation, troisième, quatrième mutation, mais pas forcément de façon linéaire, et c'est ce que j'appelle des sous-clones. Donc voilà ici en gris la cellule initiale, qui va se retrouver avec une première mutation, elle va donner un clone, ces cellules filles, mais ces cellules filles peuvent voir émerger une deuxième mutation, ici en bleu, mais une autre cellule fille aura peut-être une autre mutation qui s'associe à la première mutation, etc., etc. Donc c'est vraiment comme les branches d'un arbre qui accumulent les mutations différentes au fur et à mesure, de telle sorte qu'au sein même d'une tumeur, les cellules sont très hétérogènes, même génétiquement. Et donc certaines auront une capacité à faire des métastases, d'autres pas, mais même celles qui ont des capacités à faire des métastases ne le font pas forcément pour les mêmes raisons génétiques. Et ça peut expliquer certaines choses, et notamment des résistances à certains traitements en chimiothérapie. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on veut savoir aujourd'hui ? On voudrait savoir, quand on a tout un ensemble, quand on a analysé les mutations dans un cancer, quelles sont les mutations qui sont drivers, qui sont pilotes, qui sont responsables de l'émergence d'une tumeur, et qui sont capables d'initier une tumeur, et quelles mutations ne le sont pas. Et c'est là que l'organisme drosophile va être d'une grande utilité, aujourd'hui c'est reconnu. Quand on arrive ici, dans une pathologie humaine, quand on séquence la tumeur, c'est tard. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est le résultat d'accumulation de mutations qui ont mis des années à apparaître. Comment savoir quelle mutation est à l'origine du cancer ? Eh bien nous, en génétique d'adrosophile, on peut faire l'inverse. Donc l'inverse, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre un gène et tester et valider si oui ou non, lorsqu'il est muté, il a la capacité à initier une tumeur. Donc c'est le chemin à l'envers, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, vous allez voir que c'est d'autant plus frappant. Je vous ai dit, à la génétique, on peut voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir autrement. Eh bien, je reviens. Alors ça, ce sont des travaux qu'on a menés au laboratoire, dans l'équipe de Giacomo Cavalli, à l'Institut de génétique humaine, ici à Montpellier. Dans cette équipe, on s'intéresse depuis toujours à la fonction de ce qu'on appelle les complexes polycombes. Donc je ne vais pas parler de complexes, parce que ça serait complexe, mais je vais m'attacher à un mutant, le mutant polycombe. Le mutant polycombe, il provoque des mutations qui s'appellent des mutations, en apparence, ça ressemble à des mutations homéotiques. Alors c'est quoi les mutations homéotiques ? La mouche mâle, normalement, a des pennes sexuelles que vous voyez ici, là, vous voyez ces poils un peu plus drus, qui servent à l'accouplement. Normalement, ces peignes, il n'y en a pas dans la deuxième paire de pattes et la troisième paire de pattes d'une mouche. À part que là, elles y sont. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez ce mutant polycombe ? L'identité des cellules a été perdue. La patte 2 et la patte 3 pensent qu'elles sont des pattes 1. Bien. On sait aussi, et ça a été bien étudié, que, en fait, les polycombes, qu'est-ce qu'ils font normalement ? Ils répriment les gènes homotiques. La patte 2, la patte 3, comment le font-ils ? Par des processus qui sont appelés des processus épigénétiques. Pourquoi ? Parce que ici, chez cette mouche, les gènes homéotiques ne sont pas mutés. C'est leur expression qui est réprimée, c'est un peu différent. Donc les mécanismes épigénétiques contrôlent l'expression des génomes sans modifier la séquence primaire d'ADN. C'est ça l'épigénétique et j'en dirai pas plus aujourd'hui. Alors évidemment, on pourrait se dire encore une fois, mais quel rapport avec les cancers ? On ne peut pas imaginer que ce gène qui provoque l'apparition de peines sexuelles ectopiques chez une mouche mâle puisse avoir un rapport avec le cancer. Donc on faisait la recherche fondamentale, mais on s'aperçoit que dans les cancers, ce gène polycombe est souvent muté. Alors, on peut se poser la question, cause ou effet secondaire? Est-ce que la mutation polycombe peut être responsable de l'émergence d'un cancer? On va tester cette possibilité. Alors, on fait quoi? Des clones. On peut faire des clones, c'est-à-dire qu'on peut se débrouiller pour qu'une cellule dans un tissu, je vais dire celle-là, en rose un peu plus clair, dans un tissu normal, cette cellule, on la mute de telle sorte que maintenant, le gène polycombe est inactif. Et puis, on va laisser cette cellule se diviser. Donc, on va regarder comment se comporte le clone, c'est-à-dire les descendantes. Et ça, on le fait où on veut. Donc, nous, on l'a fait dans l'œil. Pourquoi dans l'œil? Parce qu'on s'est dit que c'est facilement visible. Et puis, c'était un système qui était reconnu. Alors, évidemment, on ne va pas générer la mutation dans l'œil au stade adulte. On le fait plus tôt. Et là, ça m'oblige à vous expliquer un petit peu le développement d'un drosophile, mais pas trop non plus. Donc, le cycle de vie de la drosophile, c'est les adultes vont pondre un embryon, la femelle va pondre des embryons qui vont devenir des larves, premier stade, deuxième stade, troisième stade, avec des phases de croissance. Donc, ces larves grossissent. Puis, elles pupent, c'est l'équivalent du cocon du papillon. Et puis, ça va métamorphoser, ça va donner un nouvel adulte. Alors, nous, les clones, on les a fait tôt dans le développement, dans la larve. Pourquoi dans la larve? Bien, si vous disséquez une larve de drosophile, vous avez à l'intérieur ce qu'on appelle des disques imaginaux. Pourquoi imaginaux? Ils sont à l'imago, ils sont à l'image des futures structures adultes. Ça, c'est absolument merveilleux. Et beaucoup de gens avaient travaillé sur la régulation de la croissance de ces disques. Et on sait que la division, la différenciation, tous ces mécanismes-là sont extrêmement synchronisés, sont vraiment stéréotypés et qu'ils ressemblent à ce qu'on voit dans les tissus mammifères, dans un épithélium mammifère. Donc là, vous avez le disque en rouge, c'est le disque d'œil. Ce petit disque d'œil, on peut le disséquer, le récupérer. Et plus tard, en fait, qu'est-ce qui donne? L'œil. Donc il y a deux disques d'œil, évidemment, pour faire les deux yeux. Deux disques d'aile qui donneront l'aile, etc. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est faire des clones dans la larve, dans l'œil. Donc on prend la larve, on se débrouille. Là aussi, je ne pourrais pas vous expliquer le tour de passe-passe qu'on utilise, mais juste retenez qu'on va se débrouiller pour qu'une cellule soit muté pour le gène qui nous intéresse. Et en plus, on arrive à faire en sorte que lorsque cette cellule est mutée, on le voit parce qu'elle va vraiment être verte. Elle est verte sur la diapositive, mais elle est verte en vrai. Elle exprime un gène qui s'appelle le gène rapporteur, la GFP, qui est un gène qui existe dans la nature, c'est un gène de méduse. Et donc, on l'utilise pour pouvoir traquer, suivre la cellule in vivo dans l'organisme entier. Donc, on prend cette cellule, on la laisse diviser, évidemment, se développer, et on va voir ce qui se passe dans l'œil. Si on a affecté un processus ici de prolifération, de différenciation, on est susceptible de le voir plus tard dans le développement. Alors, on va voir les résultats maintenant. Voilà deux larves. Sur votre gauche, c'est notre larve contrôle, parce qu'il faut toujours un contrôle, il faut voir comment les choses auraient été si elles s'étaient bien produites, en gros. Donc, on a généré ce qu'on appelle des clones neutres, donc une larve avec, vous voyez, il y a du vert là, un peu plus foncé à l'avant. C'est dans le disque d'œil. On a fait des clones neutres, c'est-à-dire qu'on a marqué des cellules normales. Donc elles fluorescent, ça veut dire que la manip, elle marche. Maintenant, que se passe-t-il lorsque on a généré des clones de cellules mutantes pour polycombe? Ben, ça marche aussi, à part que, je pense que vous le voyez ici, il y a beaucoup plus de vert que dans la larve contrôle. Donc beaucoup plus de vert, on dissèque la larve, on regarde des disques imaginaux d'œil, d'yeux. À gauche, le contrôle. Vous voyez en vert le territoire qu'occupent les cellules vertes dans un tissu normalement, en moyenne. À droite, qu'est-ce qu'on voit? Le disque provenant, qui contient des clones provenant des cellules mutantes. Alors, je crois que ça se voit, hein. Il y a beaucoup plus de vert. Donc, les cellules vertes ont pris l'avantage. Elles se sont répandues, elles ont une croissance accélérée, on le verra plus tard, mais aussi, on l'a vu, alors là on le voit peut-être pas sur l'image, mais on a vu que la structure du tissu était complètement perdue, ça formait des structures amorphes, des grosses boules si vous préférez, donc il y avait quelque chose là d'anormal. Quand ces larves arrivent au stade adulte, parfois ça arrive, c'est pas systématique, ça c'est la taille, donc c'est près à la même taille, hein, la même dimension, ça c'est l'œil normal, ça c'est l'œil provenant de ce disque. Hein. Donc là vous voyez qu'il y a beaucoup plus de cellules, c'est évident, qu'elles sont pas tout à fait bien arrangées, il y a des erreurs, et quand on zoome en microscopie électronique, les omatidies, hein, c'est les structures qui forment l'œil à facettes, vous voyez qu'ici, normalement, elles ont un arrangement très, très carré, à droite, c'est perdu, il y a des défauts, évident. Donc là, tout de suite, on s'est dit, on a peut-être là un gène qui effectivement peut être un suppresseur de tumeur. C'est-à-dire un gène dont la fonction normale, c'est d'empêcher les cellules de croître. Et là aussi, on a des moyens assez faciles pour nous d'aller tester cette hypothèse. Et on a testé, donc c'est vraiment très méthodique, hein, on ne fait pas n'importe quoi. On prend des critères, prolifération, différenciation, polarité, invasion, immortalité, et on teste tout l'un après l'autre. Donc on fait ce qu'on appelle des expériences. C'est pour ça qu'on va travailler le matin. Ce matin, je vais regarder la prolifération et je vais voir s'il y a un défaut. Et ainsi de suite, on agit par étapes. Et donc, je vais vous les montrer ces résultats, un par un. Prolifération. À gauche, toujours les contrôles, et tous les points rouges, ce sont des cellules qui sont en train de se diviser. Donc, à différentes phases de la division, mais vous voyez que c'est pas tout rouge ici. Chez le mutant, alors, ces zones vertes, on regarde, il y a beaucoup de points rouges, beaucoup plus de points rouges que dans la situation normale, et puis surtout, ces points rouges, ils sont à un endroit où ils ne devraient pas être. Parce que dans un disque normal, dans cette zone ici, plus à droite du disque, normalement, il n'y a pratiquement plus de division parce que l'œil va différencier. Donc la prolifération, la division, normalement, ne se produit que dans la partie la plus antérieure. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a encore des cellules? Ce qui se passe, c'est qu'il y a encore des cellules qui sont en train de se diviser alors qu'elles n'auraient pas dû se diviser. Elles deviennent insensibles aux signaux inhibiteurs de la division. Donc c'est vraiment une prolifération anarchique. Donc premier critère validé. Alors, si elles continuent à se diviser, est-ce qu'elles sont encore capables de différencier? On est capable de rechercher ce critère également. Et alors là, c'est un critère parmi tant d'autres de différenciation. C'est un marqueur qui nous permet de voir les cellules qui vont devenir de type nerveux dans l'œil. Donc là, on les voit bien, c'est les cellules qui sont à droite, qui normalement doivent devenir de type nerveux. Et c'est vrai que l'œil est un organe sensible à la lumière, etc. Il y a une transmission du signal dans le cerveau. Donc, tout ça est très bien organisé. Chez les mutants, dans les clones mutants, donc là c'est les cellules mutantes, vous voyez bien, bien cette capacité à différencier a nettement, peut-être pas complètement disparu, mais nettement diminué. Donc deuxième critère validé. Polarité. Je vous ai dit que le tissu normalement, alors là pour le coup, un disque d'œil, alors là, c'est une coupe transverte, c'est une couche de cellules, un épithélium, une couche de cellules très polarisée. Et là la polarité on peut l'avoir avec une, peu importe le nom, avec une molécule, donc vous voyez bien que cette molécule elle s'accumule d'un côté mais pas de l'autre, dans nos cellules. Ça, c'est un disque mutant qui contient un clone mutant. Donc on voit là, ici, on arrive à voir où sont les cellules mutantes. Donc maintenant, on revient sur le marquage polarité. Eh bien, ces cellules, elles ont complètement perdu, elles ne savent plus, j'allais dire, où elles habitent, pour faire simple. Elles ont complètement perdu leur polarité, qui maintenant, on le voit ici, hein, ce sont ces cellules-là. Elles forment des cellules qui ont quitté la monocouche, qui forment une nouvelle structure ici, sans orientation. Évidemment, souvent, quand les cellules ont perdu leur polarité, elles perdent la capacité à rester confinées dans le tissu. Donc, on a testé les propriétés invasives. Et là, il faut faire un zoom arrière sur nos images. Les disques imaginaux sont collés directement au lobe optique, qui est dans le système nerveux central, l'équivalent du cerveau, chez la drosophile. Et ça, les chercheurs en biologie du développement qui s'intéressaient au développement normal savaient que les cellules restent confinées chacune dans leur territoire. Donc normalement, des cellules ici en vert dans des clones neutres, vous voyez, on peut faire des clones partout, mais ces cellules ne sont pas capables de traverser cette fameuse barrière ici développementale. Donc c'est un système qui a été utilisé pour voir si, oui ou non, dans des clones mutants, les cellules avaient des propriétés invasives. Et ici, c'est le cas, dans nos mutants, polycombes. Vous voyez que les cellules vertes qui sont ici maintenant, elles ne peuvent venir que d'un endroit, du clone qui avait été généré dans cette partie et jamais dans celle-ci. Donc nos cellules sont effectivement capables d'envahir les tissus voisins. Mais on dit toujours que la drosophile, elle a quand même un inconvénient, c'est qu'elle a un temps de vie court. Et quand on veut générer un cancer de type, entre guillemets, humain, on n'a pas assez de temps. Donc pour essayer de voir des métastases, on reproduit ce qui existe chez l'humain, donc on va combiner notre mutation, celle qui nous a fait donner, qui nous a permis d'obtenir des gros disques, on va la combiner avec une deuxième mutation qui est capable de promouvoir des métastases. Donc nous, on a fait ça. Donc si on a un suppresseur de tumeurs qui fait des gros disques, des disques qui grandissent et qui sont des tumeurs, si on les combine à une deuxième mutation, on va peut-être pouvoir voir des métastases. Donc on l'a fait. On a combiné notre mutation avec la suractivation d'un protoncogène qui s'appelle RAS. Donc normalement, lorsqu'on génère nos clones, on les génère dans la partie la plus antérieure de la larve. Et donc, on devrait voir du vert que dans la partie la plus antérieure, sauf si les cellules ont acquis des capacités métastasiques. Et là, vous le voyez, c'est très clair. Tous ces ces blocs ici sont en fait des cellules qui ont bougé et qui ont réussi à quitter la tumeur primaire. Et là, si on fait des zooms, encore une fois, on voit que ces cellules ont vraiment des comportements normaux. Capacité d'invasivité validée. Donc on avait le dernier critère à valider, c'est celui de l'immortalité. Est-ce que ces cellules sont immortelles? Eh bien, c'est Elisabeth Gateff, celle qui avait trouvé le premier gène suppresseur chez la drosophile, qui avait mis au test un point pour tester ce paramètre chez la drosophile. Et je vais vous donner juste le principe. Si ces cellules sont immortelles, eh bien on devrait les voir survivre très longtemps, hein, c'est le principe. Et pour les voir survivre, qu'est-ce qu'elle fait? Alors on prend nos disques imaginaux, alors ici ils fluorescent, elle à l'époque ils fluorescaient pas, mais nous maintenant ils fluorescent, on les dissèque, on dissocie les cellules qui fluorescent dans le verre, et on les injecte dans l'abdomen d'une femelle pour voir ce qui se passe. Si les cellules sont immortelles, elles vont continuer à proliférer et finir par occuper une grande partie du corps de cette mouche, et si elles sont tumorales, tuer la mouche. Alors que si ces cellules ne sont pas immortelles, on n'aura pas de croissance particulière. Donc on a fait le test, en fait c'est pas nous qui l'avons fait, c'est un spécialiste, parce que ça c'est pas des expériences faciles, donc c'est Cayetano González à l'Université de Barcelone qui a fait ces expériences pour nous. Ici on a injecté des cellules contrôle, donc on voit le point d'injection mais on voit presque pas les cellules fluorescentes qui poussent pas. Il se passe rien. Par contre nos cellules mutées, lorsqu'on les a injectées dans des femelles, eh bien on voit que très vite elles ont occupé beaucoup d'espace, ces femelles sont mortes. Mais vous voyez, là c'est l'endroit où les cellules mutées ont été injectées, vous voyez qu'elles ont déjà été capables d'avancer dans la patte. On reprend ces cellules, on les réinjecte dans une autre femelle, elles continuent à se diviser. On les prend, on les réinjecte sur cette génération dans l'abdomen d'autres femelles, elles continuent à se diviser, elles sont immortelles. Donc on a bien un gène suppresseur de tumeur, il n'y a pas de doute. Donc on a fait une validation et vous voyez comment on valide la propriété suppresseur de tumeur d'un gène chez la drosophile. Maintenant, comment ce gène exerce-t-il sa fonction? C'est certainement pas en réprimant les gènes homéotiques, en tout cas c'est pas ce qu'on a pensé. Donc on s'est dit, c'est peut-être une voie de signalisation. Alors là, encore une fois, c'est pas le hasard, je vais pas rentrer sur les détails, sur les arguments, mais on est allé chercher si un gène de communication était impliqué, parce qu'on le soupçonnait. Et le fait est que oui, c'était bien lui. Donc là, encore une fois, ce gène de communication, normalement, il est en rouge ici, il s'exprime que dans une partie du disque normal. Et là, je veux dire, il n'y a même pas besoin de savoir où est le clone, je crois que vous pouvez le deviner. Il est là. Dans nos cellules mutantes, il y a un gène qui s'active de façon très forte. Et c'est un gène, il s'appelle le Notch. C'est un des gènes les plus activés dans les cancers. Dans 50% des cancers, Notch est activé. Dans les cancers du sein, de prostate, du pancréas, ce gène est activé. Donc on a le mécanisme maintenant. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? C'est ce sur quoi on travaille. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les polycombes, ils avaient deux fonctions. Une fonction qui était historique, la fonction homéotique. Et puis maintenant, on a vu qu'il y avait une autre fonction, la fonction prolifération, polarité-signalisation. Et on ne connaît pas les mécanismes moléculaires, mais on sait qu'ils sont distincts de celles de la fonction homéotique. Donc aujourd'hui, nous sommes nombreux à travailler au laboratoire pour comprendre comment les polycombes peuvent assurer cette autre fonction physiologique qui était insoupçonnée. Donc nous avons fini la validation. Vous voyez que ça ne s'arrête jamais, on a toujours des nouvelles questions. Je vous avais dit tout à l'heure que je vais montrer comment on utilise la drosophile pour identifier des nouveaux gènes dont on n'aurait pas pu soupçonner que chez le mammifère, ils puissent être des suppresseurs de tumeurs ou des proto-oncogènes. Comment on fait? Alors là, c'est pas nous qui l'avons fait. Un des leaders dans le monde, il s'appelle Chang Zhu, il est aux États-Unis. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle des cribles génétiques. Alors le principe du cribles génétiques, c'est qu'on scanne des mutations sur tout le génome d'un drosophile jusqu'à trouver celle qui fait des tumeurs. Alors on n'en est plus là, ça c'est fini. Lui, ce qu'il scanne maintenant, et là c'est une image qui est prise de son site, du site de son laboratoire, donc il part d'une tumeur primaire, ici, sur le même principe que ce que je vous ai montré, vous avez une larve avec de la fluorescence, et il va essayer de trouver les combinaisons, parce que je vous rappelle que chez le cancer humain, on pense que c'est une combinaison de gènes qui se synergisent pour générer finalement une tumeur vraiment maligne. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend sa tumeur créée par une première mutation, et il va rechercher quelle autre mutation additionnelle trouvée dans le génome est capable de rendre ou plus grave ou au contraire de faire régresser la tumeur. Donc c'est ça un cribles génétique. Et tout ça c'est au hasard. On ne connaît pas l'identité des gènes au départ. Donc il fait trois choses. Quand il met sa mutation additionnelle, eh bien il peut promouvoir des métastases. Il a déjà testé 19 000 gènes. Donc ça c'est un travail incroyable parce que là encore je tiens à le rappeler, ce sont des années de travail. Il combine 206 gènes sur les 19 000 mutations qui font ça. S'il combine, il peut aussi obtenir une augmentation de la croissance tumorale. Il a trouvé 569 mutations. Et puis, parce qu'il n'y a pas de raison, il cherche aussi les mutations qui font régresser la tumeur. Et c'est probablement que ça arrive chez nous. On peut avoir une première mutation qui est plutôt délétère, mais une deuxième mutation qui s'accumule et qui nous fait repartir en arrière. Et ces mutations, il les crible, donc il supprime la croissance. Vous voyez, on a des disques moins fluorescents, et c'est ce qu'on appelle les suppressions de la croissance tumorale. Il a 1932 mutations dans cette catégorie. Alors ces cribles génétiques, ils ont déjà fait la preuve de leur efficacité. Le crible chez la drosophile, et c'est déjà lui qui avait fait un petit catalogue dans les années 2000, en disant, regardez, nous on a trouvé des gènes qui font ça, des tumeurs primaires. Donc ce sont des gènes chez la drosophile qui, lorsqu'ils sont mutés, sont capables tout seuls, sur la cause primaire, de l'émergence d'une tumeur. Et il répertorie les gènes qu'il a trouvés par ses cribles. Donc à gauche, ici, vous avez les gènes de drosophile, à droite, les gènes humains. Il dit, ben oui, ce que j'ai trouvé chez la drosophile a l'homologue chez l'humain. Et parfois, c'était déjà connu. Donc là, drosophile, humain, c'était connu. Puis parfois, drosophile, humain, tiens, on n'avait jamais détecté dans les cancers que ces gènes pouvaient être responsables de tumeurs. Et ça a été testé sur certains. Donc, voilà le test. On génère un clone mutant, alors peut-être pas dans l'œil, dans le thorax, lui, il l'a fait dans le thorax. Hein. C'est le principe le même, d'un gène qui fait des tumeurs chez la drosophile. Il a pris le gène homologue chez la souris, parce que la souris, c'est l'organisme mammifère qui sert de modèle vraiment pour la cancérologie humaine. Ils ont muté ce gène qui était responsable de la formation de tumeurs chez la souris, chez la drosophile, excusez-moi. Ils le mutent chez la souris et ils voient apparaître des carcinomes. C'est-à-dire que la fonction tumorale a été conservée de la mouche à l'homme. Et ce qui a été démontré aussi, et ça peut paraître complètement incroyable pour les néophytes, je crois, mais c'est déjà incroyable pour moi qui travaille dans ce domaine depuis un moment, si on prend maintenant le gène normal humain et qu'on l'active dans cette tumeur de drosophile, ça fait réverser la tumeur de drosophile. Donc on a bien une conservation fonctionnelle. Le gène humain peut remplacer le gène de drosophile. On ne s'amuse jamais à faire la manip inverse. Donc, nous voilà avec une capacité d'identifier des nouveaux gènes. Troisième possibilité, je vous avais dit, c'est la dernière partie que je vais développer ici en une diapositive. Aujourd'hui, et ça c'est très nouveau, ça date de cette année, on est capable de cribler à large échelle des drogues antitumorales In vivo, c'est-à-dire dans l'organisme entier. Alors ça, c'est notamment Elena Richardson en Australie, qui est aussi un ponte reconnu dans le domaine de la cancérologie en drosophile, utilisant la drosophile. Elle a mis en place une plateforme de crible automatisée rapide. Donc son idée, c'est que la mise au point de drogue, c'est très coûteux. Et faire un crible rapide et économique, c'est rare. Et là, ils utilisent la larve de drosophile comme un testeur d'efficacité de drogues anti-tumorales. Alors, le principe, il est simple. On regarde, on va mesurer l'intensité de la GFP. Donc, on prend des larves qui ont une tumeur. Alors, ils ont testé plusieurs types de tumeurs, où il y a une suractivation de protoncogène, perte de fonction de suppresseur de tumeur, peu importe. Ils ont fait des études pilotes qui viennent d'être validées. Les études pilotes ont consisté à prendre ces larves qui ont une tumeur et en mettre 7 environ dans des puits. Vous voyez, dans ces puits ici. Et chaque puits contient une drogue différente. Donc, ils ont testé 2000 drogues qui sont utilisées en chimiothérapie humaine. Et puis, ils mettent donc ces larves, ils les laissent 5 jours avec évidemment un milieu nutritif. Elles peuvent manger ces larves et elles ingèrent donc cette drogue. Et puis, on va automatiquement ensuite mesurer la fluorescence. L'idée étant que si la drogue a été active, on devrait avoir cette fluorescence qui diminue. Donc, on devrait voir régresser la tumeur. Et donc les résultats qu'elle démontre en test pilote, je le rappelle, il est représenté ici. Donc vous avez un puits avec des larves, vous voyez bien la GFP, et ça se recouvre au bout de 5 jours, la GFP n'a pas régressé, cette drogue elle n'est pas efficace dans ce système. Elle l'a fait en suractivation de notch. Deuxième puits, vous avez des larves de la GFP, donc ça ne marche pas. Troisième puits, vous avez des larves, plus de GFP. Ça marche. Et ça marche comme chez l'humain. À part qu'ils se sont rendus compte que certaines drogues qui étaient utilisées chez l'humain pour le même type de tumeur étaient plus ou moins efficaces chez Lala pour des raisons de solubilité du produit, d'accessibilité au tissu, etc. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça démarre, hein, donc je ne vais pas vous en dire plus, c'est de tester plusieurs librairies, ce qu'on appelle des librairies, donc ce sont des collections chimiques, jusqu'à 100 000 drogues, et les tester leur capacité antitumorale in vivo chez cet organisme. Évidemment, quel est l'objectif à plus long terme? Eh bien, c'est de réaliser de la médecine appelée personnalisée. Ça, c'est vraiment le cheval de bataille de la plupart des cancérologues, ce que je ne suis pas. Mais ce que j'espère, par contre, vous aurez compris aujourd'hui, c'est que chaque tumeur individuelle est distincte en termes d'altération génétique relativement à d'autres tumeurs du même sous-type. C'est-à-dire que deux personnes qui ont le même cancer, entre guillemets, le même nom de cancer, n'ont pas forcément les mêmes altérations génétiques. Donc aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est comparer le génome chez cette personne qui a un cancer, le génome de ses tissus sains et de son tissu de la tumeur affectée, afin, si possible, d'avoir une thérapie individualisée, plus ciblée, qui s'attaque aux composantes qui sont vraiment endommagées chez cette personne. Donc de le faire au cas par cas. Alors, je ne peux pas finir en mettant un bémol à tout ce que je vous raconte. Il semblerait dire que la drosophile, c'est la panacée et que la génomique, il n'y a que ça qui est l'avenir de ce domaine de recherche. Évidemment, il n'en est rien. Et donc, si certains font du génome, d'autres font de l'épigénome, c'est le cas dans notre laboratoire. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas des mutations dans le génome, on cherche des modifications, des altérations de la structure de l'ADN, pour faire simple. Certains font du transcriptome, c'est-à-dire qu'ils cherchent des modifications de l'expression du génome, c'est pas tout à fait pareil. Certains font du protéome, c'est-à-dire qu'ils cherchent des modifications de l'activité de nos gènes. Donc ce sont des généticiens, des mathématiciens, des physiciens, des biochimistes qui travaillent de concert pour essayer d'avoir des approches à large échelle, comme ça, sur l'ensemble du génome. Ça ne se fait pas que chez la drosophile, ça se fait chez Cérévisier, chez la souris, chez le zébrafiche, chez Cénorhabditis elegans. En fait, ça se fait chaque jour, il y a des nouveaux organismes modèles, parce que comme on a la capacité de les séquencer, tous les jours, eh bien, il y a des publications sur « Eh bien, moi, je vais plutôt utiliser la planaire pour ses capacités régénératives. Stéphane utilise la CIDI pour d'autres questions, pour l'apoptose. » Donc, chacun a son organisme modèle et peut travailler dessus aujourd'hui. Pour faire quoi? Eh bien, pour mener des initiatives. Et c'est vraiment ma dernière diapositive. Je voudrais rappeler et peut-être dire, je ne sais pas, que Montpellier a une initiative qui s'appelle Montpellier Cancer. Donc, c'est un site qui s'appelle le site de recherche intégré sur le cancer, qui vient d'être labellisé par l'Institut National du Cancer, l'INCa. Et je veux juste dire que ce sont 1000 personnes qui travaillent au CNRS, à l'INSERM, dans les universités, c'est-à-dire dans les grands organismes de recherche, dans les universités, mais aussi dans les centres hospitaliers, qui collaborent aujourd'hui à Montpellier sur tous les modèles que je viens de vous donner, mais mettre plus encore, en employant toutes les techniques possibles pour essayer de travailler ensemble sur ce genre de thématiques. Et donc ce sont bien sûr les chercheurs, mais aussi les médecins, les techniciens. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions.
L'Agora des savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.